présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Chez soi, alors comment on vit avec une personne que l'on n'aime pas et que l'on sait qu'elle a conspiré avec les autres? Jérôme lui dit, pauvre Émile, et tu sais, la vie change, bouge, et tu sais, peut-être que plus tard, tu seras heureux dans une autre vie. C'est impossible. Comment veux-tu qu'elle bouge pour moi? Jérôme lui fait signe de s'asseoir sur le rebord du lit. Ils s'y assoivent l'un côté de l'autre. femme peut te quitter et te retrouver seule, ou vous pouvez divorcer. Je ne sais pas, moi. De cela, il n'en sera jamais question chez les gens de gauche militants. Oui, mais qui restent bourgeois jusqu'au bout des ongles. D'ailleurs, tu le verras toi-même pendant la soirée. Non, tu vois, je suis bien pris, et jusqu'à ma mort. Et Bill se sent fatigué, Jérôme aussi. Jérôme lui dit,
« Un tranche. »
Écoute, on se couche dans le même lit, ça va ? Émile lui dit, tu n'as pas peur ? De quoi ? C'est que tu es mignon ? Jérôme lui dit, avec le sourire, ne t'en fais pas, je sais te défendre. Ils se lèvent tous deux. Jérôme ouvre le lit et va prendre dans le placard le deuxième oreiller. Il va dans la salle de bain. Jérôme est revenu en slip, encore mouillé, les cheveux collés à son crâne le rend encore plus jeune et séduisant. Émile le remarque. Jérôme, après avoir déposé ses vêtements sur une chaise, se couche. Émile entre à son tour dans la salle de bain. Elle est déjà humide et chaude et sent le savon parfumé. Après s'être lavé, il se met au lit. Sous les couvertures, il sent l'odeur et la chaleur de Jérôme. Cela le trouble. Jérôme éteint la lampe de chevet. Il demande, « Tu as sommeil ?»« Non, je me sens bien. » La douche me fait du bien. Il se dit, sauf que je suis tombé par ton corps. Jérôme lui dit, écoute, quoi? Voilà, je t'ai jamais fait de cadeau. Émile lui dit, c'est plutôt moi. Je t'en prie, c'était déjà pas facile. Si tu veux, mais juste pour cette fois. On peut se branler ensemble. Émile est ému, tout excité, il ne bouge pas. Il sent que Jérôme lui prend la main et la met sur son slip. Alors Émile le touche et sent qu'il bande. Il le descend et se couche sur Jérôme, lui embrasse le visage, lui caresse le corps. Que tu
fait beau.
Jérôme lui dit « Chut, ne parle pas. » Jérôme lui caresse le dos et le plaque contre lui. Il a fait l'amour, car c'était vraiment l'amour, pas seulement un acte sexuel, puisque Jérôme se donnait à Émile pour lui faire un cadeau et lui prouver qu'il l'aimait bien. Après l'amour et s'être nettoyé, Jérôme lui dit « Ça t'a plu mon cadeau ?»« Oui, beaucoup. » Il l'embrasse sur les joues et le serre contre lui en lui caressant les cheveux. Jérôme lui dit « Il ne faudra jamais en parler. Ce n'est qu'un entr'acte, tu comprends ? Un entr'acte. Oui, oui. » Sois pas triste, je ne peux pas te donner plus. Je suis pas comme ça, tu comprends? Mais ça te fera un bon souvenir. Oui, merci. Le lendemain matin, ils se sont réveillés et quittés comme si de rien n'était. Mais Émile, au fond de son cœur, gardera ce souvenir et trouve Jérôme très bon et tendre. C'est un vrai ami. Il rentre chez ses parents à 10h. On ne lui pose pas de questions. Le jour des noces arrive, les cadeaux affluent, il y en a tellement que l'on est obligé de les mettre dans le futur appartement des époux. Le mariage à la mairie aura lieu mardi, ou le religieux jeudi. Émile à la mairie où il retrouve sa future femme en tailleur blanc, les deux familles et les témoins. Ceux du marié ont été choisis par le père, de lointains cousins inconnus d'Émile. Émile se sent ému, pas de se marier, mais de perdre sa liberté. Oui, encore se sentir encadré, enserré. Cette réunion qui a été qu'une pure formalité, même pour les gauchistes, le mariage religieux est plus important que le civil, enfin, les soi-disant gauchistes bourgeois. À la sortie de la mairie, ils sont allés dans un petit restaurant prendre leur déjeuner, puis se sont quittés. Les mariés ont été séparés, se sont pas du tout sentis mariés. Émile est allé dans sa chambre pour se coucher. Il ne veut voir personne. Jusqu'au jour du mariage, Émile ne veut pas penser, tout oublier, et cherche à dormir le plus possible. Ce n'est pas facile, car l'on s'affaire autour de lui. Et Fernande, plus ou moins inquiète, lui téléphone souvent. Cela l'agace beaucoup. Il n'a plus rien à lui dire. Plus les heures se rapprochent où elle va être sa femme, plus elle lui est indifférente. Jeudi est là, levé à 7 heures par maman, qui frappe à la porte.
Dépêche-toi, mon chéri. Tes vêtements sont dans la penderie sur un cintre. Tes chaussures sont dessous.
Émile se lève d'un bond.
Surtout ne pas penser. Surtout pas agir. Et c'est tout. De toute façon, les jeux sont faits.
Sorti de sa chambre avec ses chaussures neuves qui lui font mal, il va retrouver ses parents au salon. Sa mère est en train de voir sa robe, une robe longue rose. Elle porte une capeline, son père en costume. Sa mère lui dit,
« Tu ne bois qu'un café. Tu sais que tu vas communier. Tu ne dois pas manger. »
De toute façon, Émile n'a pas faim. Il boit son café.
« Ah, j'ai oublié de vous dire. »
C'est qu'Émile a refusé d'assister aux réunions de préparation au mariage que font les curés. Il a protesté qu'il n'avait pas le temps et que ces hommes célibataires, officiellement, ne connaissent pas les plaisirs de la chair. Comment peuvent-ils faire une préparation au mariage puisqu'ils ne savent pas ce qu'est que le mariage et le sexe? Son père lui a donné raison et a dit: ce sont les prêtres gauchistes qui ont lancé cette idée idiote. Ce serait plutôt à nous de leur apprendre ce que c'est que le mariage. Après avoir bu leur café, leur toilette impeccable, ils étaient en avance. Alors ils se sont assis à attendre, engoncés dans leurs vêtements, leurs chaussures neuves qui leur font mal, la faim qui les tiraille. Émile a chaud. Il aimerait que tout soit fini. si l'on veut, l'heure est arrivée de partir pour l'église. Religieuse se passe comme dans un cauchemar. Il s'est laissé guider dès la sortie de la voiture. Il n'a pratiquement rien vu, rien entendu. On le pousse pour qu'on lui dise oui. De sa femme, il n'a vu un temps blanc. À la sortie de la messe, car il y a eu une messe, on le pousse dehors.
Bonjour, bonsoir.
On le pousse dehors.
Vous sortir un peu isolé. Bonjour, maman.
Ça fatigue pas, maman, il veut pas venir.
Mais c'est pas ça, mais je connais personne, je suis pas invité. C'est un peu gênant.
Oh, arrêtez de faire des manières, vous accompagnez Maïté, et puis c'est tout.
Puis, on l'a poussé dans la voiture, en route pour les monts du Lyonnais. On a loué une grande salle pour toute la journée et la soirée. Il y a 300 invités. S'est arrêté devant une auberge. On leur a fait servir un apéritif dans le parc, puis ils ont déjeuné. Fort remis, Emile cherche Jérôme. Enfin, il le trouve, habillé en serveur, cela lui va bien. Jérôme l'a vu. Ils se sont souris. Emile sourit aussi à Jérôme. Pendant le repas, les mariés ne se sont pas parlé. On les a séparés. Aller dans le parc, se reposer en marchant. Avant de quitter la salle à manger, Émile est allé serrer la main à Jérôme. Ça va? Et toi? Lui demande Jérôme. Je plane. Ils sont contents. Ils ont gagné. Mais ils ont gagné qu'à moitié, puisque tu es là. Puis, il va rejoindre les autres dans le parc. Fernande le prend par le bras et le mène à part, tout en marchant. Elle lui dit, « Jérôme, je te promets
que je te rendrai heureux. Je serai une bonne épouse, attentive, aimante. Je sais que tu seras une bonne épouse, et cela ne suffira-t-il à me rendre heureux? Et à te rendre heureuse, toi? Si tu l'es, je le serai. Je ne sais pas si je serai un bon époux. Elle lui dit, tu es comme tous les jeunes hommes, inquiets par l'avenir. Je serai là pour t'aider, t'épauler, pour que tout aille bien. Je sais, et vous serez là, tous, comme vous l'avez été, pour que je sois malgré moi, tout, un bon fils, un bon élève, un bon étudiant, un bon patron. Eh bien, tu vois, tu n'as rien à craindre. Si, justement. Et je ferai de mon mieux, puisque nous sommes unis, pour que te rendre heureuse. Mais cela ne dépend pas de moi. Et pour être franc, ce sera malgré moi. Elle a les larmes aux yeux et lui dit, que tu es amère en ce jour qui doit être le plus beau jour de ma vie. Je demande pardon. Tu aurais dû aimer une autre personne que moi. Ne dis pas cela, puisque je suis ta femme. L'embrasse au front et lui dit, assez parlé. Allons boire et danser avec les autres. Tu as raison, c'est le plus beau jour de ta vie. Et de la tienne aussi. Il ne répond pas. Elle emmène vers les invités. Il se dit qu'il a été sans lui du cruel avec elle. Ne se dit pas en emprisonnant sa vie, tous ses conspirateurs, elle aussi. Puis, ils ont bu, se sont amusés. Elle a ri, joué, oublié. Ils ont dansé. Lui l'a souvent quitté pour aller voir Jérôme. Il serrait la main et en cachette lui dire un mot gentil. Il se comporte avec Jérôme qu'il aurait dû se comporter avec sa femme. Puis, la fête a continué. Jusqu'à tard. Émile est épuisé, il a chaud, mal à la tête, aux pieds. On a assez de faire semblant d'être heureux, de jouer au barrier, danser avec sa mère, belle-mère, amie de sa femme, etc. Dire des mots aimables, sourire aux propos idiots. Sa femme aussi semble lasse. Elle a quitté sa robe et son voile semble moins fraîche. Les invités aussi sont moins frais.
Vous voulez pas danser?
Non, je ne sais pas danser la basse.
Non, c'est pas rien.
Tu le connais, lui?
Ouais, il est dans ma classe, mais il est vraiment con.
C'est le frère du mari.
Je crois qu'il m'aime pas.
Il doit se demander ce que tu fais là.
Ben, moi aussi, je me le demande.
refusé d'être ici avec votre famille.
Les invités aussi sont moins frais.
C'est normal. Je voudrais vous demander quelque chose. On m'a dit que des fois...
Émile voit aussi que seuls les serveurs sont restés propres. De linge et net.
Comme il danse, je ne vais pas les déranger.
De partout.
J'ai une copie à corriger. Faut que je parte. Au revoir.
Il en est fier.
T'as arrangé pour mon frère ?
Car Jérôme.
On m'a dit qu'il voulait vous parler.
Lui aussi est propre.
Excusez-moi, madame, je suis bourré, je sais plus ce que je fais.
Parlons plus, Pierre.
Vous savez, faut pas que je retourne là-bas. J'ai pas beaucoup de temps, mais il faut que je trouve un moyen. C'est sûr qu'il faut pas m'aider.
À 5h du matin, sa mère lui dit qu'il doit partir avec sa femme à l'anglaise. Il va vers sa femme et lui dit qu'ils s'en vont. Mais avant de partir, il la quitte un instant.
Alors,
il va vers Jérôme.
On est d'accord ?
Le prend par le bras, l'amène dans un coin du parc et l'embrasse sur les lèvres en lui disant « Pardonne-moi, mais j'en avais besoin. » Nous reverrons.
Elle est d'accord ?
Et il le quitte.
Non.
Passer leur première nuit dans leur appartement de Lyon. Ensuite, le lendemain, ils partiront en voyage de noces en Turquie. Émile emmènera Fernande en voiture. Il a eu son permis. Ils sont tous deux épuisés. Rentrés dans leur nouvel appartement ne les émeut en aucun cas. Ils ne se rendent même pas compte que c'est leur première nuit chez eux. Émile va dans leur chambre. Trop épuisé pour sentir quoi que ce soit et quelque gêne que ce soit, il se déshabille pour se coucher. Elle va dans la salle de bain. Lui se couche. Et dort. Elle est revenue en chemise de nuit et va se coucher. Le regarde pendant quelques secondes, se sent frustré et s'endort. la journée, Émile est réveillé par une lumière qu'il ne connaît pas, une odeur inconnue. Il se demande où il est. Sans tourner la tête, il tourne les yeux pour voir où il est. C'est clair, c'est blanc, un rideau en tulle devant une commode Louis XV. Il se souvient, il est chez lui, et oui, c'est fait. Il se soulève, se tourne et voit de dos, avec les cheveux défaits, sa femme qui dort. Il s'assoit et se met à dire « Ma femme, j'ai une femme !» Il a de la peine à se mettre cette idée-là dans la tête. Enfin bon, il a une femme. Qu'est-ce que je fais? Je me lève ou attends qu'elle se lève? Eh oui, ce n'est pas facile, surtout lorsque l'on n'est pas amoureux de sa femme, de savoir ce que l'on doit faire. Faut-il l'embrasser une fois réveillé? Faut-il avouer que pour Émile, qui est un jeune marié, qui n'aime pas sa femme, elle représente un paquet plutôt encombrant dont on a bien envie de s'en défaire. Il attend et sent avec effroi qu'elle bouge. Il la voit tourner la tête vers lui et ouvrir les yeux. Elle s'étire et regonfle ses cheveux. Elle se pince son cou et lui dit « Bonjour chérie, tu as bien dormi ?»« Oui, et toi ?»« Oui. » Elle lui donne un baiser sur la joue et lui dit « Tu ne piques pas le matin, c'est bien. Tu sais ce que tu devrais faire pour me faire plaisir ?»« Non. Préparer un bon petit déjeuner pendant que je prends ma douche. » Elle s'étend un moment, s'étire et se lève. Et sort de la chambre. Lui reste pantois. Il se dit quelle facilité ont les femmes à s'adapter. Il se lève pour aller à la cuisine préparer le fameux petit déjeuner. Arrivé à la cuisine, toute blanche et neuve, c'est la première fois qu'il va préparer un petit déjeuner. Et c'est pas si facile que ça. Chercher ce qu'il faut dans le placard, ou les placards, on ne sait jamais. Oh, voilà la cafetière électrique. Elle est encore dans son carton d'emballage. Comment ça marche une cafetière électrique? Et comment faire le café? Il a bien vu sa mère ou la domestique le faire, mais c'était si vite et comme ça, il n'a jamais vraiment fait attention, voir le mode d'emploi. C'est écrit en plusieurs langues. Où se trouve le français? Ah, voilà. Bon. 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 Il faut que je trouve les filtres, les tasses, le café. Bon, cherchons. Café. il est. Il est peut-être dans le confiturier. Après avoir bien sué, il a réussi à faire le café. Le pain grillé, ce sera une autre fois, hein? Pas tout en même temps. Les biscottes doivent suffire. La porte s'est ouverte. Elle est en robe de chambre. Elle va vers lui.
C'est prêt ?
Demande-t-elle. Laisse-moi finir. Et va te laver en attendant. Il sort de la cuisine. Lorsqu'il revient dans la cuisine, le petit déjeuner est servi. Il s'assoit. Et voit qu'il y a même le pain grillé. Elle lui sert son café. Merci, elle lui dit. Il ne faut pas déjà pour préparer un petit déjeuner. Il lui dit Pono. Je n'ai jamais fait, puis j'avais des difficultés avec la cafetière. Je vois, je t'apprendrai. Et ils prennent leur petit déjeuner tranquillement. Elle sait que c'est elle qui devra faire l'initiative d'affection. Elle est patiente. Sa belle-mère lui a dit qu'il était timide et prendrait aucune initiative. Absolument aucune. Après avoir rangé la vaisselle du petit déjeuner, ils sont allés au salon. Elle a écouté quelques disques de Boulez. Lui, ça l'a énervé cette musique, mais n'a rien dit. Ils se sont presque pas parlé, elle ne veut pas le brusquer. Puis, la journée s'est passée tranquillement. Ils étaient d'ailleurs fatigués tous deux. Le soir, ils se sont couchés tôt à cause
que le lendemain, il devait partir. Les valises ont été faites depuis plusieurs jours, préparées par la mère et la fille. Il s'est couché avec plus de gêne que la première fois. Mais elle s'est contentée de mettre sa tête sur son épaule. Petit à petit, elle s'est endormie. Et lui, non. Comment peut-on dormir avec quelqu'un qui est contre vous et vous empêche de faire tout mouvement? Au bout d'un moment, on a des courbatures. Au fil des heures, alors qu'elle devient plus molle, il réussit à se dégager et à dormir. Le lendemain, ils ont pris un taxi à 8 heures pour l'aéroport, en route pour Istanbul. Ce n'est pas lui qui a choisi, mais elle. Lui n'aime pas ce genre de pays, bruyant, où les gens sont sales, la cuisine douteuse, les hôtels aussi. Enfin, de toute façon, il faut faire bien un voyage quelque part. Enfin, un voyage de noces, bien sûr.
Je suis formelle, monsieur. Le dernier vol en provenance de Londres était le vol Air France 821.
3 semaines là-bas, c'est vraiment beaucoup. Mais enfin, ils sont arrivés à la ville, sont allés à l'hôtel, car ils ont réservé une chambre dans un hôtel. Hôtel moderne, tel qu'on en trouve de partout. La chambre ressemble à une chambre standard que l'on a à Paris ou ailleurs. Le premier jour se passe à visiter la ville et à goûter la gastronomie du coin. Le dépaysement, la langue que l'on ne connaît pas, rapproche les mariés. Tout se passe bien dans l'ensemble. Émile se laisse guider, Fernand est tendre et attentionné pour lui. La nuit s'habitue peu à peu à dormir avec elle et dort mieux. Après la ville, ils ont visité le pays. Émile a loué une voiture et ils font des excursions. La nouveauté fait passer vite le temps. Un après-midi, ils sont sur la terrasse d'un café. Émile est troublé par un jeune autochtone qui les sert. Il doit avoir dans les 13-14 ans. Ce trouble lui rappelle Gérard et Jérôme. Et se demande comment il va faire pour avoir le temps de les revoir. Ce trouble-là l'a aussi éloigné de sa femme. Il se dit qu'il ne pourra jamais la désirer.
nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique, scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.